Et bien, comme je vous le signalais la fois passée, nous sommes trois professeurs qui...
Ça marche ?
Oui ? Un peu plus fort, oui. Nous sommes trois professeurs qui animons ce séminaire avec les étudiants que vous connaissez ou vous reconnaissez. Il y a le père Herbano Barucco qui est d'Arbes et qui est à l'avenue Louise. Moi-même, Alain Madouche, jésuite, et le père Xavier Dijon qui va parler aujourd'hui. Le père Xavier a été professeur de droit à l'université, à la faculté de Namur. On a changé le nom, j'hésitais un peu. Et puis, il a été membre du comité d'éthique en Belgique. Et puis, il a beaucoup écrit. D'ailleurs, l'un ou l'autre de ses livres seront en vente, si vous désirez, à l'intervalle. Je lui laisse la parole, parce que le contenu thématique est fort et important ce soir. Voilà. Merci, Xavier.
Merci, Alain. Merci.
Avec du soir, bonsoir. Je vais partir d'une question qui avait été posée la fois dernière. Alain Mathéus avait présenté une très belle vision de la vie dans l'Écriture sainte. Les étudiants qui suivent le séminaire ont eu aujourd'hui une belle lecture sur le couple homme-femme dans l'Écriture sainte. Et la dame me pose la question de savoir, oui, mais tout ça c'est beau, c'est unifié, il y a une unité du corps et de l'âme, c'est harmonieux. Mais est-ce qu'on trouve la même unité dans le corps social? Est-ce que la société pense la même chose et adopte une perspective semblable? Bien, je voudrais prendre précisément le droit comme instrument de lecture de ce que vit la société. On pourrait évidemment faire du micro-trottoir et aller demander « qu'est-ce que vous pensez du mariage ?» Et on aurait une certaine lecture par la société. Pour avoir une lecture un peu plus officielle, un peu plus structurée, plus massive, il y a vraiment plus de poids aussi, je pense que la loi, la façon dont la loi est interprétée, dit un langage commun d'une société déterminée, la société belge, la société européenne, sur ce phénomène de la sexualité aujourd'hui. Et donc, nous allons assister à un certain, il faut bien dire, un certain contraste entre la perspective qui est développée à partir de la parole de Dieu, de la Bible et dans le magistère de l'Église, et c'est le titre d'aujourd'hui, la contestation sociale de l'alliance des sexes. Et donc, ce parcours va commencer par un chapitre très simple, ordonné, disons, le mariage comme institution de la nature, et puis nous verrons le bouleversement de l'institution matrimoniale, avec ensuite l'union homosexuelle et la question de l'incertitude sur le sexe. Pour poser en finale la question de savoir, mais comment est-ce que nous pouvons accueillir cette réalité de notre monde tout en continuant à lire la Bible. Voilà. Le mariage comme institution de la nature. Portalis, qui est un des grands rédacteurs du Code civil de Napoléon en 1804, dit que, au fond, le législateur, lorsqu'il doit légiférer sur le mariage, n'a pas grand-chose à faire, puisque c'est la nature qui a tout prévu. La nature qui n'a fait les sexes si différents que pour les unir. La nature qui n'a fait les sexes si différents que pour les unir. Et donc, l'engendrement de l'enfant par l'union charnelle de l'homme et de la femme est vu comme une donnée de la nature et une donnée que le droit que le législateur humain va reprendre par sa raison. C'est ça au fond qui s'impose. Ah oui, je vous ennuie. C'est ça au fond qui s'impose à nous. C'est une loi qui nous précède, que l'enfant vient de l'union de l'homme et de la femme. C'est une loi qui nous précède, donc nous l'assumons, nous la reprenons dans l'institution matrimoniale. Donc ça, c'est même après 1789. 1789 qui avait tout chamboulé, y compris dans les relations familiales elles-mêmes, mais au moment où Napoléon reprend les choses en main, la société s'ordonne davantage et on reprend, si vous voulez, le mariage traditionnel. Ce qui est la réalité physique, c'est ça qui doit être. On ne se pose pas de questions particulières à ce sujet. On ne parle pas non plus d'orientation sexuelle, puisque l'orientation est sexuelle. L'orientation est celle de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme, et c'est celle-là qui va être ratifiée, instituée dans le mariage. On peut raccrocher ce contrat naturel avec la thématique de la loi naturelle, qui est un terme très ample en philosophie du droit et qui a fait couler beaucoup d'encre, au sens où le jurisconsulte Ulpianus, 3e siècle, en droit romain, dit que le droit naturel, c'est le droit qui est commun aux hommes et aux animaux. Et il spécifie ce droit commun en parlant de l'union mâle et femelle et de l'engendrement des petits. Et Thomas d'Aquin va reprendre dans sa définition de la loi naturelle, il va reprendre pour le meilleur et pour le pire cette définition d'Ulpien en disant que le droit naturel est celui qui est commun aux hommes et aux animaux, mais, dit-il, chez l'homme, la loi naturelle ne se limite pas à ce qui est commun aux hommes et aux animaux. Chez l'homme, il est doué de raison. L'homme, en tant que doué de raison, va chercher à vivre en société et à connaître la vérité sur Dieu. Mais peu importe ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir que une référence à l'animalité, à l'instinct, à ce qui se passe chez les animaux, se trouve présent aussi chez l'homme, dans ce sens-là, on va dire naturel, mais l'originalité de l'homme, précisément, c'est de pouvoir reprendre cette donnée de l'instinct, que l'on pourrait rapprocher de l'animalité, de pouvoir les reprendre dans l'acte de raison. Et c'est précisément ce que va faire le droit en disant que lorsque l'homme et la femme s'unissent, ce n'est précisément pas comme les animaux, puisque le mariage est institué comme un échange de paroles entre l'homme et la femme. Donc c'est le logos, la raison, la parole, qui va montrer l'engagement proprement humain de l'homme et de la femme, l'un envers l'autre, assumant par ailleurs leur condition corporelle dans toute sa réalité physique. Donc, le contrat naturel, c'est un contrat, donc il y a échange des promesses. Et donc la loi offre aux époux la possibilité d'inscrire leurs données de nature, leurs données d'homme et de femme, dans l'échange des paroles singulières. C'est lui, c'est elle. Donc il y a un choix, une élection, une confiance qui va se dire dans le consentement matrimonial devant monsieur l'officier de l'état civil. Et donc, les époux vont s'engager à la fidélité, qui va donc devoir de fidélité qui va engendrer ce que les juristes vont appeler une indisponibilité du corps. Donc les époux ne réservent leur corps que dans la relation sexuelle que vis-à-vis du conjoint. Et indisponibilité aussi de leur état civil. En principe, ils sont mariés pour toujours. Donc c'est un état que l'on ne reprend pas. Et la société trouve, la société par le biais de son droit, trouve que c'est dans cette union de l'homme et de la femme qui s'engagent l'un envers l'autre dans la parole et qui constituent ce qu'on va appeler un foyer, que c'est là que se trouve le lieu par excellence de l'engendrement de l'enfant. Du même coup, le Code civil va dire que l'enfant légitime, donc l'enfant qui répond le plus légitimement, le plus juste, de la façon la plus juste, la plus appropriée à ce qu'est un être humain, à la vie humaine, c'est celui qui est né dans un couple marié. Et donc, la société, par son droit, établit une corrélation entre la naissance dans toute la beauté de son terme, dans toute la justesse de son terme, et l'engagement préalable de l'homme et de la femme dans le mariage. Par opposition à l'enfant légitime, le Code va parler de l'enfant naturel. Mais alors, voyez déjà l'ambiguïté des mots. L'enfant naturel a comme définition celui qui naît, dont les auteurs n'étaient pas mariés entre eux à un quelconque moment de sa conception, de sa naissance. Eh bien, le mot nature va évoquer quelque chose qui se passe comme ça, de façon factuelle, entre un homme et une femme. Un homme et une femme ont eu une relation féconde. L'enfant qui en est né est naturel, parce que cet homme et cette femme n'étaient pas mariés entre eux. Mais si l'on creuse philosophiquement de façon un peu plus profonde, on dira que c'est l'enfant légitime qui correspond le mieux à la nature de l'homme, puisque la nature de l'homme, ce n'est pas seulement de se définir par le rapprochement charnel à la manière dont parlait Ulpien, mais que ce qui est propre à l'homme, c'est précisément de ratifier ce rapprochement charnel par une parole qui les engage, et c'est l'institution du mariage. Un dernier mot, c'est que dans cette institution du mariage, il ne s'agit pas seulement de la relation entre l'homme et la femme, il s'agit aussi de leur relation avec le reste de la société. C'est une institution sociale, et donc la société, elle est intéressée par ce qui se passe entre l'homme et la femme, puisque c'est par la naissance de l'enfant que la société va être renouvelée. Donc elle protège, la société protège dans l'institution du mariage, protège sa propre source, si je puis dire. Et en échange, la société offre à l'homme et à la femme sa propre objectivité de société, monsieur l'officier de l'état civil, comme témoin de l'engagement que l'homme et la femme ont pris l'un envers l'autre dans le secret de leur confidence, de leur confiance. Donc, en prenant la décision de se marier et en célébrant leur mariage, l'homme et la femme assument l'un et l'autre leurs conditions corporelles, et l'un par l'autre d'ailleurs, ils assument leurs conditions corporelles et leurs conditions proprement sociales. Et vous aurez remarqué que ce régime donc, qui est officialisé en 1804 dans le Code Napoléon va durer jusqu'aux premiers grands ébranlements du droit de la famille jusque dans les années 1960. Nous arrivons alors, chapitre 2, au bouleversement de l'institution matrimoniale. Où va jouer la liberté et puis l'égalité, et il faudra aussi dire un mot de la science. Mon collègue Yves-Henri Leleu, qui est professeur de droit de la famille à l'Université de Liège, a changé l'intitulé de son cours, c'est le droit des familles. Dans le droit des familles, parce que la famille n'est plus fondée aujourd'hui sur le mariage, il va même dire que le mariage est un accident de l'histoire. Un accident de l'histoire. Et que le droit n'est plus là pour sanctionner un modèle unique, pour garantir un modèle unique. Nous n'avons plus un droit sanctionnateur, nous avons un droit accompagnateur. Donc qui accompagne les démarches de l'homme et de la femme dans leurs différents aléas. Familiaux, affectifs. Et il cite « Le temps où l'individu acceptait la préséance de la société sur son intérêt personnel semble révolu. » Donc le temps où l'individu acceptait la préséance de la société sur son intérêt personnel semble révolu. Et donc, pour exercer sa liberté, chaque sujet va adopter une stratégie que l'on a pu qualifier comme étant une stratégie d'ajournement. Donc on ajourne le mariage, et c'est le phénomène que vous connaissez bien de la cohabitation juvénile, pas toujours juvénile d'ailleurs, elle peut se prolonger, qui fait qu'aujourd'hui, si j'ai dit bonne mémoire, de la moitié des enfants en Belgique naissent hors mariage, donc, en dehors du mariage. Donc le mariage n'est plus prisé, on ne s'y engage pas. Il y a une stratégie d'allègement du mariage aussi. Par exemple, autrefois, quand nous étions jeunes, l'adultère était condamné pénalement, et puis la dépénalisation de l'adultère a manifesté un certain allègement, au moins symbolique, hein, de la... du devoir de fidélité, ou une stratégie de recommencement lorsque il y a eu divorce. Et donc, de décennie en décennie, les lois sur le divorce rendent de plus en plus facile, accessible, cette séparation des conjoints. Donc, on peut imaginer que ce qui apparaissait comme le devoir de fidélité, comme l'indissolubilité, comme cette indisponibilité qui a l'air de coincer, si je pouvais dire, les époux, les liens, on dit les liens du mariage, mais les liens, ça s'oppose à la liberté, dans une certaine conception, et donc, il faut que les sujets puissent reprendre leur liberté par les diverses stratégies que je vous ai dites. Et donc, d'abord, ça s'est pratiqué, cette liberté, les gens ont commencé à prendre leur liberté par rapport au devoir du mariage, et puis le droit a suivi cette pente en accompagnant, pour reprendre le terme de Yves-Henri Leleu, en accompagnant la démarche de telle sorte qu'elle puisse être vécue sans trop de dégâts pour les personnes. J'ajoute aussi que dans cette recherche de la liberté, les droits de l'homme ont joué un rôle très important, puisque les droits de l'homme sont conçus, au moins chez nous dans notre Occident, de façon essentiellement les droits de l'individu. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, lorsqu'elle se trouvait devant des questions un peu délicate relative à la vie familiale, va avoir tendance à privilégier les droits individuels contre les contraintes de la société. Et donc, le mariage, les formes du mariage sont parfois vues comme des contraintes sociales par rapport auxquelles la logique des droits de l'homme doit pouvoir jouer. Nous allons en voir l'un ou l'autre exemple tout à l'heure. Donc, un puissant ressort, c'est celui de la liberté, mais l'égalité peut servir aussi à la cause de la liberté, et je vais parler de cette distinction que nous avons dite tout à l'heure entre l'enfant légitime et l'enfant naturel. On a dit, mais comment se fait-il qu'un enfant soit puni parce qu'il aura un sort moins favorable que l'enfant légitime? Par exemple, pour que sa filiation soit établie, sa mère devra le reconnaître. Il ne suffit pas que la mère ait accouché de l'enfant pour que sa filiation, il faut qu'elle aille à l'état civil reconnaître l'enfant. Il aura aussi une part moindre que l'enfant légitime, s'il est en concurrence plus tard avec des enfants légitimes, une part moindre dans la succession. Donc, comment se fait-il, demande Madame Marx, qui est une Anversoise, donc c'est la Belgique qui a fait évoluer la jurisprudence en matière de filiation à Strasbourg, comment se fait-il que ma fille, née alors que je n'étais pas marié, que ma fille soit désavantagée par rapport à n'importe quel autre enfant légitime, puisque les droits de l'homme disent qu'on ne peut pas faire de discrimination entre les sujets de droit du fait de la race, du sexe, etc., mais aussi de la naissance. Donc, une naissance dans le mariage ou une naissance hors mariage ne peut pas avoir d'impact sur les droits de l'enfant. Et donc, la Cour européenne de Strasbourg a donné raison à Madame Paula Marx en disant que la Belgique avait violé les droits de l'homme en continuant à maintenir la vieille distinction entre enfant légitime et enfant naturel qui était dans le code Napoléon. Donc vous voyez que, tant mieux évidemment pour l'enfant naturel, mais ça revient à dire que symboliquement, le droit n'accorde plus d'importance au fait que un enfant naisse ou non dans un foyer, dans un mariage, puisque la seule différence qu'il y aura entre un enfant légitime et l'enfant naturel, mais elle est là par la force des choses, c'est que lorsqu'un enfant naît d'une femme mariée, il y a présomption de paternité du mari de la mère. Donc c'est assez logique. La présomption de paternité, la femme mariée met au monde un enfant, on dit le père c'est l'époux de la mère. Mais ce qui ne peut évidemment pas se faire pour un enfant naturel, puisque a priori, la mère qui met au monde l'enfant n'est pas mariée, du moins pas mariée avec le père. Bien. Donc, l'égalisation, le ressort de l'égalité va finalement, comme vous voyez, jouer aussi en faveur de la liberté, puisque quel est l'intérêt, vont demander les gens, quel est l'intérêt de se marier, puisque de toute façon, l'enfant qui naît de ce mariage qui n'a pas plus d'intérêt, n'a pas plus d'avantage qu'un enfant naturel. Donc l'égalisation des enfants libère, si vous voulez, les parents de la contrainte du mariage. Avec aussi, on l'a remarqué, le fait que le poids de stabilité de la famille va se déplacer du foyer, puisque le foyer n'est plus nécessaire, il va se déplacer vers la filiation. Et donc, c'est la relation verticale de l'enfant à ses parents, éventuellement séparés, qui va être le noyau stable de la famille, puisque le foyer comme tel ne s'est plus voulu stable, puisque l'institution matrimoniale a été de plus en plus bouleversée. Un dernier point, c'est la science qui va, comme toute science, approcher les choses de façon la plus objective possible, avec le moins d'interférences subjectives, et donc qui va approcher les corps, mais des corps qui sont sans lien avec la parole. Et si nous faisons davantage attention à propos des corps aux gamètes, spermatozoïdes et les ovocytes, lorsque, dans la procréation médicalement assistée, qui ne peut évidemment avoir lieu que par les progrès de la science biomédicale, lorsque on va faire circuler les gamètes, dons de sperme, dons d'ovocytes, mère porteuse, éventuellement clonage, lorsque on fait circuler les éléments corporels d'une personne à l'autre, ça se fait sans parole. C'est-à-dire que le donneur de sperme a donné son sperme, la donneuse d'ovocytes a donné l'ovocyte, et donc le corps suit son... Les éléments corporels suivent leur parcours d'un côté, mais la parole est dite par d'autres. Donc vous avez le couple qui est candidat, qui est le couple stérile qui souhaite avoir un enfant et qui, ce sont des parents d'intention, mais ce qui se passe entre eux, le désir qu'ils expriment dans l'esprit, est coupé de ce qui se passe dans le corps, puisque le corps n'a pas de parole et la parole n'a pas de corps. Voyez-vous ? Donc, nous sommes aussi dans une perspective, et la science nous impose, et je crois qu'elle le fait de façon massive, même si c'est lentement, par imprégnation des esprits, la science nous impose une façon de voir qui, pratiquement, va à l'encontre de ce qui se vit dans le mariage, parce que le mariage, c'est précisément une parole d'engagement d'un homme unique envers une femme unique, y compris sur leur propre corps, sur les données de leur corps. Et donc la science met à mal cette logique-là, ici aussi au nom de l'égalité. Les époux qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont pouvoir accéder à la parenté parce que la science va le permettre. Donc, la science est au service de la liberté, elle libère les gens de leur corps, et elle est au service de l'égalité entre les sujets de droit. Et l'égalité étant un point important aussi des droits de l'homme. Alors, jusqu'ici ça va ? Le troisième point est celui de l'union homosexuelle. Parce que, si vous m'avez suivi dans ce chapitre 2, le mariage va singulièrement perdre de son importance pour par rapport à sa perception traditionnelle. Mais il s'est donc si bien dévalorisé qu'il va pouvoir accueillir quelque chose qui n'a vraiment plus rien à voir alors avec la perspective de la rencontre homme-femme et du contrat naturel, qui est de faire accéder les personnes de même sexe au mariage. Donc nous sommes ici pratiquement aux antipodes. Donc ce qui était, ce qu'on disait autrefois, une union contre nature, c'est ce qu'on disait, une union contre nature, va être assumé par l'institution traditionnelle du mariage, parce que cette institution, me semble-t-il, et à ce point perdu son sens, le sens qu'elle avait d'assumer par la parole la rencontre et de la femme, que cette institution devient maintenant disponible pour ce qui vient de venir la consécration officielle d'une intimité. Donc c'est la définition, ça devient la définition du mariage aujourd'hui, c'est la consécration officielle d'une intimité, l'intimité amoureuse. Et donc, intimité qui va être débiologisée. Les un certain nombre de juristes parlent de la débiologisation du mariage. Déjà la rencontre charnelle avec les procréations médicalement assistées, la rencontre charnelle avait perdu de son importance. Donc on peut poursuivre le mouvement de débiologisation et consacrer cette attitude. Ça ne s'est pas fait du premier coup, puisque au départ, dans certains pays, la relation homosexuelle était réprimée pénalement, donc il a fallu lever cette répression pénale et timidement entamer une reconnaissance civile. Alors, où en sommes-nous à ce point de vue-là, à Strasbourg? Nous sommes encore sur une prudente réserve. Deux Autrichiens homosexuels, gays, se sont présentés à Strasbourg parce que leur pays, l'Autriche, refusait de les marier. Et donc, ils estimaient que cette loi nationale violait leur droit à la vie privée et familiale. Après tout, notre intimité affective à nous, les deux hommes, c'est une affaire qui est privée et qui concerne une famille. Donc nous avons le droit à la vie privée et familiale, donc la loi ne peut pas empêcher de nous marier. Alors, de justesse, par 4 voix contre 3, les deux Autrichiens ont été conduits en disant non, nous ne pouvons pas obliger l'Autriche à reconnaître le mariage homosexuel, mais nous admettons quand même qu'il y ait une certaine vie familiale entre deux homosexuels. Et par exemple, on donnera des droits aux deux personnes sur les enfants de l'autre, par exemple s'il a eu des enfants d'un précédent mariage. Donc on va reconnaître une certaine vie familiale aux époux aux couples homosexuels, mais sans encore aller trop loin. C'est ainsi que procède la Cour européenne des droits de l'homme. Elle regarde ce qui se passe dans l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe, donc c'est beaucoup plus large que l'Union européenne, et elle voit jusqu'où penche la balance pour un moment donné dire, là ici, la population, enfin l'état des mœurs est suffisant pour dire que dans telle ou telle législation nationale, il y a une violation des droits de l'homme. Par contre, l'Union européenne, donc les 28-27, elle a été plus hardie dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prise en 2000. La référence à l'homme et à la femme a été supprimée. Donc on disait que l'homme et la femme ont, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier. On a supprimé l'homme et la femme, on dit le droit de se marier est reconnu selon les législations nationales, c'est-à-dire on ouvre aux différentes législations nationales, donc il n'y a pas de législation prise au niveau européen à ce point de vue-là, mais chaque pays de l'Union européenne peut autoriser l'union homosexuelle, puisque la référence à l'homme et à la femme a été supprimée. Donc, ce qui se passe ce combat des homosexuels en vue de la reconnaissance dans le mariage, c'est évidemment une énorme souffrance. La souffrance de vivre leurs conditions amoureuses sans pouvoir la reconnaître socialement. Et donc le grand désir, c'est de pouvoir être comme tout le monde. Et donc, lorsque la loi va dire, mais d'accord, nous avons entendu votre requête et nous allons faire un pax ou une cohabitation légale, mais on ne pourrait pas vous marier. Puis on va dire, oui, mais quoi, il y a deux sortes de mariage, il y a un mariage au rabais. Non. Donc on dit, mais il faut le mariage. On dira, d'accord, vous aurez le mariage, mais vous n'aurez évidemment pas la parenté. Puis on va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, un mariage où on ne peut pas être parent? Ce n'est pas un vrai mariage. Pourquoi est-ce que nous, on est dévalorisés et discriminés par rapport aux autres? Mais oui, d'accord, vous pourrez adopter, mais pas accéder à la procréation médicalement assistée. Quoi? on peut adopter, on ne peut pas avoir... Et donc la Belgique, au fur et à mesure, ça s'est fait en quelques années, hein, a ouvert le mariage et la procréation médicalement assistée et la PMA aux couples homosexuels. Pour la PMA, ce n'est par la force des choses que pour les couples lesbiens, de femmes, avec l'insémination artificielle. En attendant, ça c'est l'étape suivante, que les hommes disent, puisque les femmes peuvent avoir un enfant entre elles, les hommes doivent évidemment l'avoir par recours à la gestation pour autrui. Alors, la dernière, en 2014, la dernière loi en date, c'est celle de la coparenté. Lorsque une femme engagée dans un projet parental avec une autre femme, donc qu'elle soit mariée entre elles ou qu'elle soit simplement de fait engagée dans le même projet parental, la loi de 2014 admet que l'autre donc, soit coparent. Donc la femme qui a mis au monde l'enfant par insémination artificielle, la femme qui a mis au monde l'enfant est la mère, et la coparente est celle qui a signé l'engagement de coparenté, l'engagement dans le projet parental. Étant entendu qu'en Belgique, on peut être parent par un projet parental. Et une personne seule peut être aussi auteur d'un projet parental. Alors la toute dernière chose en date, c'est ce qu'on a appelé, j'ai appris le mot hier, parce que c'est hier que j'ai reçu l'avis du comité consultatif de bioéthique numéro 67, vous pouvez le trouver sur internet, la ROPA. Recollection of oocytes from partner, donc le recueil des ovocytes de la partenaire. Donc on a interrogé le comité consultatif de bioéthique pour savoir si un médecin peut... Il y a un couple de deux femmes, donc il y a Julie et il y a Manon. Et un médecin peut stimuler, faire une stimulation ovarienne de Manon, prélever des ovocytes, féconder in vitro les ovocytes de Manon pour avoir des embryons qui seront réimplantés chez Julie. De telle sorte que la femme puisse porter l'enfant de l'autre. Donc Manon est mère génétique et Julie est mère gestatrice, moyennant la fécondation par le sperme du donneur. Réaction du comité consultatif de bioéthique, ça répond à la définition du projet parental. La loi dit qu'on peut être auteur d'un projet parental et ce projet parental peut être ouvert aux couples homosexuels. Mais toute la discussion a porté sur le fait que ce qui n'est quand même pas préférable de s'en limiter à une insémination artificielle par donneur d'une des deux et puis restons-en là. Et alors là... comme souvent, le comité consultatif s'est divisé et a dit, certains ont dit, mais non, il faut laisser au couple lui-même le soin de décider entre l'insémination et la fécondation in vitro. Et d'autres disaient, non, il est quand même préférable, vu le coût financier, vu le coût médical, de donner d'abord la priorité à l'insémination artificielle avant de faire la fidèle. Ben, vous voyez, jusqu'à quel point le législateur s'est complètement écarté de la donnée du mariage, puisqu'il y a un donneur, on ne saura jamais qui est le père, et les corps sont rendus tout à fait disponibles pour exaucer la liberté et l'égalité. Hein. Pour exaucer la liberté des couples par rapport à leurs données corporelles. C'est vrai que jusque maintenant, deux femmes ne peuvent pas encore engendrer. Enfin, voilà, si elles s'aiment, elles doivent pouvoir engendrer comme un homme et une femme qui s'aiment. Et l'égalité aussi, il faut que... puisqu'il existe une présomption de paternité du père, une présomption de paternité du mari de la mère, il faut que pour, dans un couple lesbien, l'épouse d'une épouse puisse aussi bénéficier de ce titre de coparent. Donc, la loi va essayer de faire en sorte que la situation familiale finale soit la plus égale, la plus proche possible de ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce qui s'exprime là-bas, c'est la compassion du corps social. Le moteur, hein, c'est la liberté et l'égalité du côté des demandeurs, et de l'autre côté, c'est la compassion. De quel droit est-ce que nous pourrions empêcher de tels désirs de s'exaucer? Autrefois, il y avait, on dirait, oui, mais enfin, c'est pas la nature, ça. Oui, mais la nature, elle peut être transformée par la science. Et donc, ce qui va compter, ce n'est pas la subordination à un intérêt supérieur de la nature ou que sais-je. Ce qui compte, c'est le bonheur des gens, donc c'est-à-dire leur liberté et leur égalité, qu'ils ne soient pas déconsidérés par rapport à autrui et qu'ils puissent mener la vie qu'ils souhaitent. Et donc, puisque la nature, qui est quand même puissante, c'est une référence puissante dans nos esprits, dans nos cerveaux reptiliens, puisque la nature n'est plus là pour... On va alors demander au corps social lui-même, au législateur lui-même, de pouvoir appuyer, de donner sa caution morale, si je puis dire, à ce vœu des sujets qui veulent s'unir de cette façon-là. Il y a une phrase qui est intéressante. Au moment de la discussion du mariage pour tous, du mariage homosexuel, il y a eu un long débat au Sénat, et un juriste du nom d'Olivier de Scutter, à qui on objectait, oui, mais enfin, admettre un couple homosexuel dans le mariage, ça bouleverse l'institution du mariage. Réponse: peut-on infliger des souffrances aux homosexuels au nom de l'intégrité de l'institution du mariage, de sa fétichisation et de sa naturalisation? Il y a une nouvelle demande qui apparaît, qui est très forte. Elle ne contredit pas la liberté, elle ne contredit pas, au contraire, l'égalité entre les sujets. Oui, ça va bouleverser l'institution du mariage. Bon, peut-être que les gens mariés vont souffrir de ce bouleversement de l'institution qui les lie. Mais qu'est-ce que c'est, cette souffrance-là, par rapport à la souffrance des homosexuels qui ne peuvent pas accéder à cette union? Ça va? Dernier point, c'est l'incertitude sur le sexe. Je pense que vous avez compris que cette évolution va en quelque sorte mettre le sujet, l'individu, au centre de la réflexion. Donc c'est le sujet qui doit, dans sa trajectoire individuelle, doit pouvoir exercer, déployer sa liberté, pourvu que les autres sujets puissent à égalité déployer leur liberté également, mais on voit relativement peu l'alliance, si vous voulez, et l'alliance qui intégrerait, comme on le voit dans la parole, qui intégrerait, comme on le voit dans le mariage, la chair, la rencontre charnelle et la parole. Et donc je pense que ce n'est pas un hasard si, dans ce contexte-là, qui est centré sur les individus et leur bonheur personnel, en dehors des considérations propres à l'alliance et au rapport à autrui, que se pose la question de l'incertitude sur le sexe, en particulier au départ à propos du changement de sexe. Le cas médical est celui du transsexualisme, où la personne qui est tout ce qu'il y a de plus homme morphologiquement, génétiquement, caractère secondaire et tout, tout ce qu'il y a de plus homme, se sent à l'intérieur de lui-même femme, et ou l'inverse de la femme qui se sent à l'intérieur homme. Donc, comment affronter cette grande souffrance d'un tel sujet? Les médecins se sont risqués à la réassignation chirurgicale, c'est-à-dire que par différentes ablations et différentes reconstitutions et les hormones en plus, on va transformer un homme en femme et une femme en homme. La question de la licéité de ces opérations, la licéité sur le plan pénal, a été réglée assez vite. On a dit, il y a un malheureux qui était mort dans cette opération-là et le procureur avait poursuivi les médecins pour coups et blessures volontaires. Parce qu'on ne voit pas très bien, ça ressemble fameusement à des mutilations, mais donc si ce n'est pas autorisé par la médecine, un médecin ne peut pas utiliser son titre de médecin pour procéder à des tortures ou à des mutilations ou à des traitements inhumains, mais les juges ont dit, écoutez, il y a des médecins qui disent que on ne peut guérir ça que par la psychologie, mais il y a d'autres médecins qui disent ben, on ne peut guérir ça que par la chirurgie. Et le juge dit, moi, je ne suis pas médecin, donc je vous laisse discuter entre vous, mais en tout cas, au bénéfice du doute, je ne vais pas condamner les médecins qui ont procédé à cette opération. Donc l'opération en elle-même apparaît légitime, mais alors, la question est de savoir après ça, si on va accepter la modification de l'état civil. Parce qu'un homme est devenu femme, mais s'il est toujours marqué homme sur sa carte d'identité, ça va poser des problèmes. Et donc, dans un premier temps, les juges disent, écoutez, non, monsieur, je regrette beaucoup, mais la donnée du sexe est une donnée fondamentale de l'état civil, et l'état civil est indisponible, vous avez pris l'initiative de vous transformer, mais moi, je ne peux pas vous suivre. Et évidemment, le sujet en question va à Strasbourg, et Strasbourg dit non, ça fait partie de la vie privée de ce monsieur, et donc on ne peut pas empêcher ce monsieur, ça c'était en 1992, en France, on ne peut pas empêcher cette personne de voir son état civil, et donc la France est condamnée pour violation des droits de l'homme, voilà, la vie privée. 10 ans plus tard, c'est un Anglais qui se présente, qui avait été transformé en Anglaise, Christine, et qui, donc en 2002, Larry Goodwin, qui demande, elle, la permission de se marier. Et donc, les juges disent que l'Angleterre ne peut pas empêcher cette dame, qui était homme, mais cette dame, de se marier avec un homme. Donc, en disant, oui, mais dit-on, elle ne pourra pas fonder une famille. La Cour répond facilement, il n'est pas nécessaire de fonder une famille pour se marier. Donc, c'est clair. Et elle ajoute, c'est quand même difficile aujourd'hui de définir ce qu'est un homme ou ce qu'est une femme. Et le mariage a beaucoup évolué. Donc, la Cour européenne de Strasbourg enregistre les évolutions du mariage dans les 50 dernières années. On dit, ben, ça devient, voilà, ce n'est plus le code de 1815, c'est la consécration officielle d'une intimité. Et donc, si un homme devenu femme veut épouser un homme, on ne sait plus trop ce qu'est le mariage, on ne sait plus trop non plus ce qu'est un homme ou une femme, donc on ne peut pas porter atteinte à la liberté de cette femme-là, donc on va autoriser, donc condamner plutôt l'Angleterre pour violation des droits de cette femme. On dira aussi, donc, on ne sait pas ce qu'est un homme et une femme, on ne sait pas ce qu'est le sexe finalement. On ne sait pas ce qu'est le sexe. Et on dira que le sexe, la définition du sexe résulte d'un bilan. Donc, il faut voir alors, les éléments génétiques, XX ou XY, gonadiques, testicules, ovaires, hormonales, somatiques, psychiques, voire sociales. Donc, le sexe dépend de toute une constellation dont il faut faire le bilan pour pouvoir savoir ce qu'est le sexe. Et donc, dans ces conditions-là, il faut pouvoir être assez souple dans les façons de traiter ces questions. Bon, il y a quand même l'un ou l'autre auteur qui dit, oui, mais est-ce que cette façon de juger, ça n'a pas donné raison au délire. Et donc, le délire qui s'abstrait complètement de la réalité corporelle, donc quelqu'un qui est parfaitement homme selon nos canons traditionnels, qui s'estime femme, est-ce que ce n'est pas délirant? Et donc, vouloir non seulement entamer des opérations chirurgicales, mais les légitimer par la plus haute instance des droits de l'homme en Europe, est-ce que ce n'est pas entrer soi-même dans le délire? On pourra en discuter. Enfin, ceci nous amène, donc cette réflexion sur le déclin du mariage et sur l'incertitude quant au sexe nous amène à la question délicate du gender, le mot anglais pour définir le genre, qui précisément va ramener, donc va remplacer l'homosexe. On dit maintenant que ce sont des questions de genre, il y a un ministère du genre qui va remplacer l'homosexe pour pouvoir tenir compte de la préférence subjective des sujets. Le sexe, c'est charnel, c'est objectif, c'est bon. Tandis que le gender est un mot qui est plus souple, plus passe-partout, parce qu'il montre et il exprime la préférence subjective de sujet sur ce qu'il veut être. Et on va parler d'une identité de genre. Donc, l'identité de genre, c'est celle que j'expérimente au plus intime de moi-même, même si cette identité de genre ne correspond pas à l'identité qui m'a été attribuée à ma naissance. Donc on a dit, oh la belle petite fille, et on lui a donné des poupées, on lui a appris à faire la vaisselle, et elle est gentille, elle est douce, et puis lui, c'est son garçon. Donc il faut pouvoir sauver cette identité de genre. Et le transgenre est précisément celui qui sent en lui, au plus intime de lui, une identité qui ne correspond pas à celle qui lui a été attribuée à sa naissance. Alors, comment saisir, comment appréhender ce phénomène qui se multiplie aujourd'hui? Je vous avoue que c'est difficile d'y voir clair. Parce que on s'accuse volontiers de mauvaise foi ou de duplicité ou en tout cas de mauvaises intentions. On peut au moins parler des gender studies, les études de genre, ou la théorie du genre. Parfois on dit idéologie du genre pour la rendre péjorative. Regardez. Dans les gender studies, on pourrait coupler ceci avec l'émancipation de la femme. Vous connaissez les trois cas de Guillaume II. Kinder, Küche, Kirche. Donc, les enfants, la cuisine, l'église. Voilà le rôle dans lequel doit se confier la femme sans prendre part à la vie publique. Contre cette relégation dans un espace privé, les féministes vont revendiquer une place dans la vie publique, demandant d'ailleurs à leur compagnon ou mari de prendre une place importante dans la sphère privée et qu'eux aussi fassent la vaisselle. Donc, il y a... et les gender studies, bon, ça va être un peu plus sérieux que ce que je dis ici, vont essayer de débusquer dans tous les domaines de l'histoire, de la Bible, de l'archéologie, de tout ce que vous voulez, dans toutes les sciences, on va calculer le nombre d'hommes et de femmes dans les universités à quel, et que les hommes sont recteurs et les femmes sont balayeuses. Et puis on va, donc on va tout analyser au spectre de l'égalité. Pour essayer, je disais, de débusquer les inégalités entre l'homme et la femme. Alors, ce genre d'études, moi je dis c'est intéressant. Intéressant, c'est pas, je ne sais pas ce qu'on en fait, mais c'est intéressant. Ça apprend à connaître le fonctionnement de la société. Cela dit, si il y a de temps en temps, je pense, des dérapages de la gender studies vers ce qui pourrait être une idéologie du genre qui dirait la différence sexuelle comme telle n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc, dire que l'hétérosexualité est préférable à l'homosexualité, ça, c'est un propos homophobe. Donc, vous dévalorisez l'homme, c'est une profonde atteinte à l'égalité des êtres humains entre eux, de dire que l'hétérosexualité vaut mieux que l'homosexualité. Donc, il faut pouvoir inculquer toujours et partout cette idée qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Parce que si vous faites une différence, vous créez une inégalité. La différence engendre l'inégalité. On va aussi refuser la complémentarité homme-femme. Trop facile de dire que l'homme et la femme sont complémentaires parce que ça va maintenir la femme dans un statut d'être dominé. Alors, ce qui est difficile à voir, c'est le glissement de l'un à l'autre. Est-ce que les gender studies engendrent nécessairement cette idéologie qui refuse la différenciation, ou bien est-ce que c'est une pente nécessaire, savonneuse? Alors, des deux côtés, on va s'accuser de ne pas se comprendre. Et c'est peut-être vrai qu'entre l'homme et la femme, c'est pas toujours facile de se comprendre non plus. Donc c'est peut-être pas un hasard que si c'est une matière difficile à traiter. On va dire, mais il n'y a pas de théorie du genre. Ça n'existe pas. Donc les féministes vont dire, il y a théorie du genre, ça n'existe pas. On fait des études de genre, des études sérieuses, et on voit que les hommes ont toujours pris le pouvoir partout. Ça, c'est ça. Mais on voit bien que quand, dans un texte de l'ONU, par exemple la conférence sur les femmes à Pékin, on emploie le mot gender, le délégué du Saint-Siège dit nous acceptons que le mot genre soit employé, mais dans le sens où il a toujours désigné le sexe. Donc on voit bien que les réactions officielles de l'Église par rapport au genre, on n'est pas contre l'émancipation de la femme, donc on dit que de fait dans l'Église aussi, la femme devrait prendre plus de place dans la vie publique aussi, et les hommes devraient partir. Donc y a, ça va, du côté de l'émancipation, ça va, il n'y a pas trop d'opposition, mais du côté d'une indifférenciation et d'une élimination de la référence au corps, de la référence charnelle au sexe, là, il y a une beaucoup plus grande prudence. 1er octobre, de retour de l'avion du Caucase, le pape François a vu une lance contre les manuels scolaires, et réaction de la ministre de l'Instruction disant le pape n'a pas compris, qui vient de voir ce qu'il y a dans le manuel scolaire, c'est pas ça qu'on veut dire. Donc, c'est un peu un jeu de jouer au chat et à la souris. Pour savoir, mais qu'est-ce qu'on veut finalement quand on dit le genre et pas le sexe? Et donc c'est un discernement qui n'est pas facile à opérer. Bon, on a presque fini. Donc je crois que la grande affaire que j'ai essayé de te dire, c'est que il s'agit de mettre ensemble, vous l'avez compris, le corps et la parole. C'est ce que faisait le mariage, et c'est ce que le mouvement à la fois des droits de l'homme, de l'égalité ou de la liberté, qui va s'appuyer sur la parole, sur la volonté, en demandant à la science de mobiliser les corps, vous voyez, cette alliance, cette unité du corps et de la parole va être cassée du côté de l'esprit par les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, et du côté du corps par la mainmise scientifique, la domination scientifique. Donc, il faudrait pouvoir retrouver cette unité intérieure du corps et de la parole que l'on trouve précisément dans le symbole. Un symbole, comme disait le regretté Albert Chappelle, fondateur de cet institut, le symbole c'est le corps spirituel du Verbe incarné. Ça avait quelques connotations théologiques, mais le corps, le symbole est le corps spirituel du Verbe incarné. Dans le symbole, il y a un corps, et c'est incarné, et c'est un corps spirituel du Verbe. Donc, il y a une parole. Les corps ne sont jamais des corps. Moi, je n'aime pas quand on parle d'un père biologique. Un père n'est jamais biologique. Un père n'est jamais biologique. Dès qu'il engage son corps, il y a toujours quelque chose de l'esprit là-dedans. Donc, il faut pouvoir retrouver l'unité du corps et de la parole, cette unité intérieure, dans le symbole. Alors, je pense que, vous direz bien la conclusion vous-même, je pense que l'Église a une parole à dire précisément là-dessus, sur cette unité intérieure, parce que, si je reviens à la Genèse, lorsque Dieu a fait l'homme et la femme, bon, c'est Dieu évidemment qui se cache derrière la nature. Hein? Donc, alors, la nature est un mot sécularisé pour pouvoir être utilisé sur la scène publique. Mais lorsque Dieu fait l'homme et la femme, ce sont des êtres à la fois de chair et de parole. Ève est modelée de la chair d'Adam et Adam parle sur elle en disant « c'est l'eau de mes os et la chair de ma chair ». Donc, Dieu fait l'homme et la femme comme êtres de chair et de parole et il dit lui-même une parole sur eux, il dit que c'était très bon. Pas seulement bon, mais c'est très bon. Et donc, il faudrait pouvoir redire à nos contemporains que
l'homme et la femme comme être de chair et de parole, c'est très beau. Voilà.